Vous écoutez, on lit pour vous.
Cœur maraîcher. Un texte de Julie Vaillancourt, paru le 21 mai 2024 dans le magazine Fugue. Aujourd'hui, âgée de 34 ans, Émilie œuvre dans le domaine de l'agriculture depuis près d'une décennie. Après un parcours en communication, elle quitte le milieu de la publicité et découvre sa voie, qui l'amène aux terres maraîchères. Elle obtient alors son diplôme de l'Institut national de l'agriculture bio à Victoriaville, seule école du genre au Québec qui soit exclusivement axée sur l'agriculture bio. À 25 ans, j'avais déjà ça en moi. Je me suis dit, si je le fais, ce n'est pas pour aller appliquer des pesticides. Explique celle qui avoue probablement avoir hérité de la passion de ses grands-parents, pionniers des tables fermières au Québec, avec une ferme d'agneaux. J'ai baigné, finalement, dans ce que je comprends, aujourd'hui comme étant une agriculture de proximité. Celle qui semait des carottes à 4 ans sera co-directrice de production au jardin de la Grelinette, avant d'acquérir sa propre ferme à Bedford, dans les cantons de l'Est. Ma conjointe et moi avons acquis une ferme maraîchère qui fermait ses portes, les jardins du Chat Noir, où j'ai été associé pendant près de 2 ans. Comme tout est dans tout, lorsque cette ferme a été mise en vente, nous l'avons achetée. Pour notre première année, nous faisons de la location d'équipements et de parcelles de terrain, notamment à une amie floricultrice, les Jardins de la Renarde. Si Émilie prévoit, bien sûr, revenir à sa terre maraîchère pour la cultiver, elle désire néanmoins s'épanouir avec un présent défi, celui de sa vie, comme elle l'explique. Depuis septembre dernier, Émilie occupe le poste de directrice générale au réseau des fermiers et fermières de famille, un regroupement d'agriculteurs et d'agricultrices locaux bio du Québec. Pour moi, la coop, c'était une opportunité que je ne pouvais laisser passer. Ça fait 10 ans que nous sommes en fonction. À mon arrivée, nous étions 9 employés et sommes présentement 28. On a ouvert 2 épiceries de producteurs agricoles, une première au Québec. Ce qui est intéressant avec le réseau, c'est qu'on coordonne des outils, on offre des formations, on fait de la communication, mais les entreprises restent indépendantes. Nous avons plus de 150 offres à travers nos producteurs de légumes, ainsi que de viande, œufs, pain, etc. Sans conteste, le réseau propose une variété de produits bio d'ici et directement aux consommateurs, que ce soit via leur site web ou par un système d'abonnement mensuel. C'est hyper personnalisé à la ferme. Le principe de ce modèle, c'est que le citoyen va retrouver son panier de famille le plus proche de chez lui, de son travail, de sa garderie, etc. C'est le citoyen qui choisit son point de cueillette et qui a rendez-vous chaque semaine avec son fermier ou sa fermière. Le réseau assure aussi une stabilité des prix entre les entreprises. Bien sûr, chaque ferme présente son offre de produits sur son site web avec un exemple du panier du mois. Ainsi, le réseau rassemble un type de production agricole où chaque ferme possède sa couleur et est indépendante, en s'engageant sur le fait qu'il n'y aura jamais moins de 8 espèces de légumes dans chacun des paniers, assurant ainsi une offre variée pour les consommateurs et consommatrices. On se rappelle que les fermiers et fermières du Québec, comme ceux et celles en France, on fait l'actualité il y a quelques mois, lors de manifestations, en demandant notamment au gouvernement d'être davantage considéré, en lien avec les difficultés liées au changement climatique. Les valeurs du réseau prônent l'agriculture soutenue par la communauté, l'autonomie alimentaire et l'agriculture biologique de proximité. Une façon nécessairement de pallier certains problèmes socio-économiques. Depuis 25 ans, c'est exactement ce qu'on répond. La responsabilité ne peut pas revenir qu'aux consommateurs ou qu'à l'entreprise privée. En fait, on vit dans un monde qui nous a démontré la débandade totale de ce que ça fait que de laisser ça dans les mains du privé et que l'État a son rôle à jouer. On dit toujours, devant l'inaction, sachez que quand vous adhérez à l'agriculture soutenue par la communauté, au moins, vous êtes persuadé que vous allez dans le sens de la solidarité, de l'économie locale et de l'environnement. Appuie Émilie en donnant l'exemple que personne n'a le temps de lire les étiquettes en épicerie ou encore que la provenance de certains aliments n'est même pas indiquée. En adhérant à notre réseau, qui n'est pas le seul, mais bien le plus grand réseau d'agriculture soutenu par la communauté au monde, c'est une façon d'être assuré de la provenance des aliments et de la certification bio. Qui plus est, chaque livraison de panier est une occasion d'éducation, précise Émilie. Par exemple, quand j'ai 150 familles qui viennent chercher des paniers de légumes au lieu de cueillettes, les gens sont curieux, ils veulent savoir. Ils posent des questions sur ce qu'ils mangent, les légumes de saison, l'agriculture en serre, etc. Ce sont d'ailleurs ces mêmes personnes qui ne remettent pas en question les prix de nos légumes, car ils comprennent leur provenance et le travail derrière. Bien sûr, on ne peut guère défendre ou protéger ce qu'on ne connaît pas, d'où l'importance de l'éducation en ce sens. Si le monde de l'agriculture nous paraît d'emblée très hétéronormé, Émilie y va d'un constat. Plus je travaille dans le milieu, et plus je rencontre de gens, plus j'ai envie de dire que l'agriculture est vraiment un milieu queer. La relève est vraiment alternative. Dans ma classe à Victo, ce n'était pas 10%, mais plutôt au-dessus de 30% qui s'identifiaient comme étant de la diversité. Et la moitié de mon équipe à la coop est officiellement ou non officiellement issue de la diversité. Le président du CA est gay. Donc, on est vraiment en famille. Si Émilie a acquis une ferme avec sa conjointe, l'amour est dans le pré nous a appris qu'il n'est pas toujours facile de trouver l'amour sur la terre, surtout lorsqu'on est une femme lesbienne. Or, si la copine d'Émilie n'évolue pas du tout dans le même milieu, la fermière avoue cependant avoir une facilité à concilier travail-famille. Je suis extrêmement privilégié car ma blonde travaille en cinéma comme chef maquilleuse-coiffeuse, CCM. On a réalisé que les farmers puis le monde en cinéma se rejoignent à plein de niveaux. En plus du fait que toute la gang porte des blondstones, on fait tous des journées de 12 à 14 heures, avec des horaires variables et atypiques. Ça fait un peu plus de 2 ans que nous sommes en relation et c'est frappant de voir comment on est chanceuse à ce niveau-là. Info. Site du réseau des fermiers et fermières de famille, fermierdefamille.org. C'était « Cœur maraîcher », un texte de Julie Vaillancourt, paru le 21 mai 2024 dans le magazine Fugue.
Francis William Réaume à Fleur de Peau, une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu, paru le 11 juin 2024 dans Les Libraires. Comédien de formation et illustrateur dans l'âme, Francis William Réaume n'a guère envie de faire un choix et décide de consentir avec enthousiasme à ses multiples élans. De ses dessins émanent une bienveillance et une tendresse qui réconfortent les cœurs à vif, possédant lui-même une grande intensité émotive qui lui sert à merveille lorsque vient le temps de rendre en image des sujets sensibles ou des situations délicates. Contours, couleurs, traits et formes distillent alors un baume apaisant. Vous êtes illustrateur, mais vous pratiquez également le métier de comédien. Du jeu ou du dessin, laquelle de vos passions est venue en premier? J'ai grandi entouré de ma mère et de ma grand-mère qui peignaient. Les arts visuels ont donc toujours été omniprésents dans ma vie. Cependant, je n'avais pas nécessairement de talent et ce n'était pas une réelle passion pour moi. J'étais bien plus intéressée par l'interprétation et l'improvisation. C'est vraiment plus tard, à l'âge adulte, que mon intérêt pour les arts visuels a ressurgi en se transformant en une vraie passion. Lorsque vous créez des univers graphiques, comment les lignes, les personnages, les paysages prennent-ils forme dans votre tête? Mon processus créatif commence souvent par une méditation que je fais en ayant l'intention d'explorer le projet sur lequel je travaille. Je laisse mon inconscient me suggérer des images qui sont généralement abstraites. Quelquefois, ce sont des idées conceptuelles, des palettes de couleurs ou des compositions qui apparaissent. Mais comme ces visions ne sont pas précises, je vais partir de cette exploration pour ensuite effectuer une recherche visuelle afin d'essayer de préciser ma vision et clarifier le style. D'ailleurs, la notion de style m'angoisse. Je n'ai toujours pas l'impression d'en avoir un propre à moi. Pour chaque projet, j'ai envie d'explorer et de me laisser influencer par ce que je trouve beau, ce qui m'amène souvent à expérimenter différentes techniques et donc à perdre une certaine cohérence à travers mes projets. J'envie vraiment ceux qui ont une signature visuelle forte qu'on reconnaît facilement. Les images ne sont pas des paroles, mais elles disent pourtant beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elles permettent d'exprimer que les mots ne peuvent pas toujours? J'ai l'impression que les images transmettent souvent bien mieux mes pensées que les mots. Exprimer des idées à l'oral peut être vraiment laborieux pour moi. Les idées se court-circuitent souvent dans mon cerveau et ça vient perturber mon flot des mots. Ça rend mes propos confus et parfois je n'arrive même pas à terminer mes phrases. Parler nécessite une certaine rapidité. Dessiner demande de prendre son temps. Alors, quand je travaille sur une illustration, c'est comme si ça me permettait de mettre un point à mes phrases. Cette sensation de conclure sa pensée, ça fait beaucoup de bien. Il me laisse l'impression de transmettre une partie plus complète de moi. Personnellement, quels sont les artistes visuels que vous admirez? Oh là là, j'en admire plusieurs. Du côté de l'illustration jeunesse, John Classen me fascine avec l'univers qu'il arrive à créer. J'adore sa palette et ses textures. Isabelle Arsenault m'impressionne beaucoup avec son talent, sa dextérité. Christian Robinson, pour sa technique de collage et son art d'évoquer dans la simplicité. Sans oublier l'univers tellement agréable et touchant d'Agathe Bré-Bourret. J'ai également une petite obsession par rapport à la banlieue et le travail du peintre David Hockney me parle beaucoup. Sinon, au Québec, récemment, j'ai découvert la peintre irano-canadienne Pardis Amerian. Et je dois dire que son travail me rentre dedans. Mais je n'arrive toujours pas à expliquer précisément pourquoi. Vous avez illustré 4 albums jeunesse et un recueil de poésie. Est-ce qu'il vous plairait de le faire pour d'autres sortes de littérature, par exemple la bande dessinée? L'idée d'illustrer une bande dessinée m'a déjà traversé l'esprit. Mais la quantité de travail nécessaire pour y arriver, dans la solitude, me paraît trop exigeante. J'ai l'impression que je serais plus portée à réaliser un film avant de faire ce travail, parce qu'on serait en équipe. Au moment du travail, dans quel état d'esprit êtes-vous? Quand je m'installe pour travailler avec l'espace mental nécessaire, je tombe dans une sorte de transe où le temps semble s'arrêter et les pensées envahissantes s'en vont. C'est un état que je trouve particulièrement agréable et productif, où je me sens complètement immergée dans la création. En revanche, quand je dois travailler dans la précipitation, je me mets malheureusement souvent dans cette situation, je me sens moins libre, plus stressée et moins dans le moment présent. J'aimerais bien trouver l'équilibre. Dans l'épopée de Timothée, Fonfon, créée avec Marie-Hélène Poitras et Mathilde Corbeil, ou votre plus récent album, Dans le cœur des koalas, La bagnole, écrit par Lily Thibault, deux livres destinés aux petits lecteurs et petites lectrices, que vous avez illustrés, le sentiment de solitude est abordé. Comment rendre compte avec douceur d'émotions qui n'en sont pas toujours pourvues? J'ai l'impression que mon travail d'illustrateur est en relation profonde avec Francis William, enfant. Je vais souvent le sonder avec une perspective d'adulte. Et il y a une espèce de va-et-vient qui se fait. Souvent, le fruit de cette collaboration intérieure donne un résultat empreint d'une certaine douceur et d'une naïveté. Vous êtes l'illustrateur, mais aussi l'auteur de l'album très fantaisiste « Petite mousse apprend à vivre dans deux nombris », La bagnole, qui traite de la séparation des parents. Qu'est-ce qui vous a mené à l'écriture? Je vivais justement une séparation avec la mère de mon enfant et je trouvais ça excessivement difficile, cette transition, à la fois pour moi et pour ma fille. Alors je me suis inspirée de notre propre histoire familiale pour proposer une histoire qui apporterait un peu de douceur dans ce processus particulier. À travers cette histoire, j'aborde l'idée que même si un couple se dissout, la famille, elle, persiste et existe à travers le temps. C'est une réflexion plutôt légère sur la continuité et la transformation de l'amour familial, une idée qui me touche. Lors de votre collaboration avec Lily Thibault pour le livre « Il, amour et autres élans », composé de fragments poétiques et publié aux éditions Cardinal, elle a dit de vous dans le journal Le Quotidien « C'est un hypersensible lui aussi, et il a été extraordinaire de délicatesse, de gentillesse et de bienveillance. Quand je découvrais ses dessins, j'en avais des frissons. J'y voyais qu'il comprenait parfaitement ces émotions que j'exprimais. Comment réussit-on à transformer de vives émotions en force créative? Je dirais que je suis assez souvent dans les vives émotions. Et quand je ressens quelque chose de fort, j'aurais souvent envie de le crier, de le partager pour être compris. Mais comme je n'ai pas envie que ce soit brutal ou agressif, j'essaie de canaliser ça à travers l'art. Ça devient un outil quasi thérapeutique pour moduler et exprimer mes émotions. En prenant le temps de dessiner une idée, une émotion, ça me laisse l'espace pour mieux me comprendre. Et quand mon travail fait écho avec les autres et que ça touche, je dois dire que c'est extrêmement gratifiant. C'était Francis William Réaume à Fleur de peau, une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu, parue le 11 juin 2024 dans Les Libraires.
Blue Jean, double vie dans l'Angleterre des années 80. Un texte de Julie Vaillancourt paru le 27 juillet 2023 dans le magazine Fugue. C'est dans le nord-est de l'Angleterre, plus précisément à Newcastle en 1988, que se déroule Blue Jean, le premier long-métrage de la réalisatrice Georgina Oakley. Alors que le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher est sur le point d'adopter la loi section 28 stigmatisant les gays et les lesbiennes en interdisant la promotion de l'homosexualité, Jean, Rosie McEwen, mène une double vie. Professeure d'éducation physique dans un collège de jour et lesbienne de soir. Cette double vie est plutôt recluse le jour. À l'école, elle s'adresse peu à ses collègues, dîne seule et se contente sans trop d'implication émotive de coacher ses élèves, bref, de faire son temps. Le soir, elle sort en boîte dans l'underground lesbien de Newcastle, où elle s'éclate, sans trop d'écart, avec sa copine vive, Carrie Hayes, et ses amis. Plutôt réservée et secrète, la vie de Jean se déroule sans anicroche, malgré le regard indiscret des voisines, et ce jusqu'au jour où Lois, une nouvelle élève de sa classe, débarque dans le bar qu'elle fréquente, forçant Jean à des remises en question. Après avoir réalisé quelques courts-métrages, dont le téléfilm Bored en 2019, Georgina Oakley réalise ici un premier long-métrage maîtrisé et assumé, rafraîchissant par son retour dans l'Angleterre des années 80, en revisitant une période sombre de l'histoire homosexuelle, sans pour autant tomber dans le mélodrame. Si Oakley fut nommée pour plusieurs prix relativement à ce premier long-métrage, dont le Queer Lion au Festival du film de Venise en 2022, elle remporte le prix du public au Giornate degli Autori, en plus d'être récompensée dans des festivals tels que Thessalonique, Séville, Paris, Belfast, etc. L'actrice principale, Rosie McEwen, n'est pas en reste, puisqu'elle est repartie avec le British Independent Film Award pour son interprétation tout en retenue. Elle porte littéralement le film sur ses épaules et traduit admirablement tout le poids d'une époque répressive qui l'empêche de s'épanouir par peur d'être « outé ». Nous sommes ici dans le régime de la peur, celui qui fonctionne sur le système de la honte, un sentiment qui habitera plusieurs gays et lesbiennes de l'époque. D'où les célébrations dites de la fierté, aujourd'hui, qui visent à contrecarrer, mais aussi à se remémorer, ce sentiment longtemps subi par nos communautés. Le film de Georgina Oakley s'illustre ainsi à juste titre dans des couleurs ternes d'une Angleterre plutôt pauvre, industrielle et peu fière de cette époque répressive, alors que la direction photo parvient, au même titre que les actrices, à nous faire vivre cette époque révolue. Rosie est d'ailleurs intriguée par le puits de solitude, The Well of Loneliness, de Radcliffe Hall, un livre banni en Angleterre dès sa parution en 1928. D'ailleurs, dans une scène subséquente, elle entendra à la radio que l'hétérosexualité est la base de la société civilisée, sous l'écoute attentive de ses collègues qui renchérissent avec des commentaires homophobes. Sans conteste, si Blue Jean résonnera certainement aux oreilles des plus vieilles générations, il constitue un éloquent legs aux plus jeunes, rappelant qu'il n'y a pas si longtemps, soit 35 ans, la perspective de vivre une orientation sexuelle autre qu'hétérosexuelle était synonyme de honte et de répression. jusqu'à ce que la honte soit substituée par la parole libérée. Info, Blue Jean, 2022, Royaume-Uni, 1h37, avec Rosie McEwen, Kerry Hayes, Lucy Holiday, un film réalisé et scénarisé par Georgina Oakley, est distribué par Metropole Films et présenté dans les cinémas canadiens depuis le 23 juin. C'était Blue Jean, double vie dans l'Angleterre des années 80. Un texte de Julie Vaillancourt, paru le 27 juillet 2023 dans le magazine Fugue.
Benoît Pelletier et les Inuits. Un texte de Louis Bernard, paru le 5 avril 2024 dans Le Devoir. Les chefs de trois communautés Inuits viennent de rendre publique une lettre qu'ils ont adressée au premier ministre Legault, lui reprochant de laisser traîner depuis un an la signature du traité Petapan, dont l'entente de principe avait été signée en 2001 par le ministre Benoît Pelletier, à titre de ministre responsable, au nom du gouvernement du Québec. Récemment décédé, M. Pelletier, juriste éminent, qui avait étudié en profondeur l'entente de principe, doit certainement être déçu de cette attitude de rétrograde. D'autant plus que le ministre fédéral, lui, a déjà accepté le projet de traité depuis le 31 mars de l'an dernier. Selon les chefs, le Québec remet même en cause certains éléments clés de l'entente de principe déjà acceptée. Et cela est carrément incompréhensible compte tenu de la réputation d'ouverture aux Autochtones que le Québec s'était acquise depuis le leadership manifesté par M. René Lévesque au siècle dernier. Le Québec doit faire le nécessaire pour finaliser les négociations sans autre délai. Il est temps que le premier ministre Legault, qui refuse même de rencontrer les chefs, prenne ses responsabilités et ramène à l'ordre ses fonctionnaires récalcitrants. C'était Benoît Pelletier et les Inuits. Un texte de Louis Bernard, paru le 5 avril 2024 dans Le Devoir.